Je suis tellement heureux de vous retrouver ce matin. Et en plus, vous avez vu qu'il va y avoir un barbecue pour nous, mais en plus pour les jeunes adultes. Donc ne manquez pas ça. C'est vraiment la belle saison du barbecue. Et je pense qu'on est tous heureux d'avoir un bon barbecue dans l'église. Combien d'entre vous ce matin seraient d'accord pour dire qu'en ce moment, le monde n'est pas bien? À vrai dire, je suis tombé sur un article il y a quelques semaines de ça qui titrait « Le monde est pas bien ». Et le journaliste expliquait que c'était l'une des choses qu'il disait le plus souvent à ses amis, « Le monde ne va pas bien ». Et il détaille dans son article, il y a quelques semaines, à Dollar des Ormeaux, un aîné, une personne âgée, est descendu des gradins lors d'un match de soccer pour aller frapper le jeune arbitre de 17 ans, tout ça parce qu'il avait fait une erreur. Et il continue en disant qu'au Tim Hortons, il a entendu parler de clients mécontents du service trop lent qui sont mis à cracher sur les serveurs du Tim Hortons. Et même le journaliste dit « Moi, j'ai reçu des menaces de mort juste parce que j'ai écrit un article et le gars n'était pas d'accord avec moi, donc il m'a envoyé des menaces de mort. » Le monde est malheureux en ce moment. Et la Covid n'a pas créé ce malheur, mais il a révélé vraiment ce qu'il y a à l'intérieur en chacun de nous. Et voici comment il conclut. Attachez-vous bien, j'ai décidé de commencer fort là ce message, donc attachez-vous bien. Il conclut comme ça. Nous n'avons collectivement jamais été aussi riches, mais peut-être n'avons-nous jamais été aussi malheureux. Vivre, c'est de la pression. Pression partout. Tu veux voir un médecin, il n'y en a pas, va au privé. Ton enfant a besoin d'un orthophoniste, il y a un an d'attente, va au privé. Tu veux acheter une maison, tu peux juste la payer à 60 km de ton travail. T'es pressé, t'es pogné dans le trafic. T'accouches de ton premier enfant et un de tes premiers stress est déjà de lui trouver une garderie. Tu veux manger sainement, puis la facture de l'épicerie te fait frôler l'AVC. Tu veux te relaxer, partir dans le sud, puis la culpabilité t'embarque. Et la planète alors? Donc tu fais un road trip à 2 $ le litre d'essence. Puis il continue en disant, en près de 20 ans, de 2000 à 2018, la proportion de foyers américains qui donnaient à des œuvres de charité est passée de 66% à 49%. Ça veut dire quoi? Je l'ignore. Je sais juste que la désolidarisation est palpable, que le monde n'est pas bien, que l'autre est de plus en plus perçu comme une menace, une nuisance. Comme si on pensait que le salut était dans le chacun pour soi, au plus fort, au plus fâché. Bienvenue Nouvelle Vie Châteauguay en 2022. Et cet article même a été écrit avant la tuerie qui a pris au Texas, qu'on a tous vu, on a tous été horrifiés par ces images-là. Et il ne mentionne même pas la guerre en Ukraine. Le monde n'est pas bien en ce moment. Le monde est malheureux. Le monde vit dans une anxiété qui est permanente, dans un malheur, dans une angoisse qui est permanente. Et si vous n'avez pas eu la difficulté à respirer pendant toute cette introduction-là, je ne sais pas comment vous avez fait. Moi, ça m'a pris un sac en plastique la première fois que j'ai lu cet article-là pour un peu décompresser parce que ça m'a vraiment éveillé mon anxiété. Et si je vous ai réveillé un petit peu avec trop d'anxiété, dites-le moi, je ferai une petite danse pour vous faire penser à autre chose. On a tous connu des moments d'angoisse durant ces derniers mois, durant ces dernières années. Des moments de stress, des moments de peur, des moments d'inquiétude. Et si ce n'est pas votre cas, moi, ça a été mon cas. Juste durant la dernière année, juste se dire, reprendre une église, premier pastorat, commencer une église, et puis il y a la distanciation, il y a les masques, il y a la Covid, puis réfléchir, est-ce qu'on fait un pass sanitaire ou pas de pass sanitaire? Comment on fait s'il y a telle situation? Comment on fait s'il y a ça? Honnêtement, je n'ai pas bien dormi durant ces dernières années. Même encore hier soir, je ne dormais pas très bien, à cause de l'anxiété qui est continuellement là. Et je ne vous dis pas ça juste pour dire, oh, pauvre pasteur. Je vous dis ça pour montrer qu'on est tous remplis d'anxiété en ce moment. Et même ce qui est fou, c'est qu'on voit au niveau des chiffres que l'anxiété n'a fait qu'augmenter durant ces dernières années. Selon le Centre national de la santé aux États-Unis, le taux des personnes anxieuses est passé de 8,2% à 36% chez les adultes entre 2019 et 2020. Et je n'ai pas les chiffres de 2022 là, mais je suis sûr que ça a continué à augmenter. Et on peut se demander, mais comment on peut faire pour vivre dans tout ça? Pas juste survivre, mais mieux vivre. Et on est justement dans cette série des proverbes, mieux vivre, les secrets des proverbes. Et ce matin, je voulais qu'on prenne le temps de réfléchir ensemble à la lumière de l'anxiété ambiante, de la peur qui domine nos vies. Comment mieux vivre en paix au milieu de l'anxiété? Et pour ça, on va étudier ensemble le troisième chapitre du livre des Proverbes. Et quand je l'ai étudié, je me suis rendu compte que ce troisième chapitre-là, il nous donne des clés, il nous donne des pépites pour savoir comment gérer notre anxiété financière, pour savoir comment gérer notre anxiété de performance, de toujours vouloir plaire aux autres, d'être accepté. Et voici comment le troisième chapitre commence. « Mon enfant, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Qu'est-ce que la paix ici ? La paix, dans l'Ancien Testament, c'est vraiment un mot qui est très riche. Ça vient de l'hébreu « shalom ». Et cela signifie une plénitude de paix. Et à l'époque même, quand les Juifs, même encore aujourd'hui, quand les Juifs se croisent dans la rue, ils se disent « shalom », ils se souhaitent la paix l'un chez l'autre. Dis à ton voisin « shalom » ce matin. Souhaites-tu la paix ce matin ? Je vais essayer de réconcilier les couples qui se sont chicanés dans la voiture avant de venir. Et « shalom » ici, ce n'est pas juste une simple paix. C'est une paix totale, parfaite, dans tous les sens du terme. C'est la paix avec Dieu. C'est une paix, le shalom, c'est une paix en Dieu. Le shalom, c'est la paix entre les uns et les autres. Le shalom, c'est une paix avec soi-même. Le shalom, c'est une paix, peu importe les circonstances. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de problème. Le shalom, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu auras goûté au shalom de Dieu, que tout sera parfait. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus ignorer les problèmes autour de soi. On est conscient des problèmes autour de nous. On ne fait pas comme l'autruche. Vous savez, l'autruche qui met sa tête dans le sable, là, pour se cacher. J'ai essayé de mettre une image. On n'est pas comme ça. Le shalom, ce n'est pas ignorer les problèmes qui nous entourent. Mais le shalom, ça nous permet d'avoir l'assurance et la confiance. Parce que c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui ne dépend pas de nous. C'est une paix qui ne dépend pas de nos richesses, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, mais c'est une paix qui est fondée en Dieu et sur Dieu. Et le shalom, ça ne signifie pas non plus qu'on ne va plus connaître aucune peur, que c'est fini, plus besoin d'avoir peur. Parce qu'il y a du bon dans la peur, il y a du bon dans un minimum d'anxiété. Je veux dire, si je me retrouve nez à nez avec un ours, je ne vais pas aller lui faire du petit câlinou. Mon cerveau m'a envoyé des signaux d'alerte pour me dire « Hey, fuis, c'est le moment de courir. » Si on me propose un nouveau poste, c'est normal que je sois anxieux. C'est nouveau, je ne connais pas. Et ça va me pousser à travailler, ça va me pousser à être un peu plus performant derrière. En fait, j'ai fait un peu mes recherches. Et dans votre cerveau, c'est l'amygdale. Tu peux mettre la diapo 7 si tu veux. C'est l'amygdale qui a pour rôle de vous informer du danger. C'est ce tout petit point rouge dans votre cerveau qui a pour but de créer en vous cette peur. C'est un instinct de survie en fait. Le problème, c'est que l'amygdale ne sait pas se maîtriser. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Vice Versa ou Sans Dessus Dessous, mais dans ce dessin animé-là, on est dans le cerveau d'une petite fille. Et toutes ces émotions, c'est des personnages. Donc il y a la joie, il y a la colère, il y a la tristesse et il y a la peur. Lui, c'est l'amygdale. Il a tout le temps peur. Dès qu'il arrive une situation, il appuie sur tous les boutons, fuit, court, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Il y a un bruit dans la maison, c'est un cambrioleur qui vient venir te tuer. J'ai pas de nouvelles de mes enfants qui sont partis en soirée, et il leur est arrivé un accident. Est-ce que je suis sûr d'avoir fermé la maison à double clé ? Parce que si je ferme pas la maison, il va y avoir un voleur qui va venir, il va voler toutes mes affaires, mon mari et ma femme, elles vont en avoir marre de moi, elles vont me jeter à la porte, je vais divorcer, je vais perdre mes enfants, je vais perdre mon travail, je vais être à la rue, je vais être tout seul. Merci l'amygdale. Mais Dieu nous a bien créés. Il a pensé à tout. Il a pensé au cortex préfrontal, qui lui a pour but de calmer le jeu là, de l'amygdale. Le cortex préfrontal va dire « Non, non, c'est pas un cambrioleur, c'est ton chat qui est en train de péter une coche, là. Non, non, tes enfants, ils n'ont pas eu d'accident, c'est juste qu'ils sont en soirée et ils n'ont pas envie de t'écrire, ils ne pensent pas à toi, là, tes enfants, comme toi, tu penses à eux. T'as bien fermé la porte de ta maison, t'as vérifié 3 fois, donc maintenant, va au travail. » Et quand on vit une anxiété, quand on vit une angoisse, généralement, c'est parce que notre amygdale prend le dessus sur notre cortex préfrontal. Et on vient être dépassé et noyé par nos émotions et nos peurs. C'est pour ça que Dieu dit, si tu veux connaître mon shalom, si tu veux connaître ma paix, si tu veux grandir dans ta paix, dans ta confiance, n'oublie pas mes enseignements, garde mes commandements, sois ancré en moi. Et alors que j'étudiais, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, bon, les commandements, on les connaît, les enseignements, on les connaît, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique vraiment là pour vraiment comprendre comment acquérir cette paix? Et je me suis rendu compte, en fait, que cette réponse, on la voit dans tout le reste de Proverbe 3. Et notamment au verset 9. Il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin. » Ici, le Proverbe 3 nous amène à trouver la paix dans notre anxiété financière. Selon les études, un tiers des couples divorcent, un tiers des couples vivent des conflits à cause des finances. Il y a même, en ce moment, je suis tombé sur des articles qui disaient que les jeunes célibataires annulent leur date au dernier moment parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez d'argent pour sortir. L'argent nous coupe de nos relations avec les autres, mais ça nous coupe aussi de la paix que Dieu veut nous donner. Combien de nuits blanches est-ce qu'on fait par an à cause de nos finances? Vous savez, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais combien de fois j'ai fait des nuits blanches pendant que j'étais aux études à me dire, on est sur un salaire, comment je vais faire pour payer les factures, payer l'école biblique, payer la bouffe, payer ci, payer ça, comment on va faire, Seigneur? C'est impossible. Et le verset 9 nous donne une solution à notre anxiété financière. Et ça peut être surprenant un petit peu, parce que alors qu'on angoisse pour l'argent, le verset 9 nous appelle à donner, afin de grandir en paix. Le verset 9 nous appelle à honorer Dieu par notre générosité. Et ici, le mot « honorer », ça signifie réellement traiter Dieu comme ayant de la valeur, comme ayant de l'importance, comme si Dieu avait un poids devant nous. Pas Dieu a un gros poids parce qu'il mange des Big Mac, mais non, parce que Dieu a un poids à nos yeux. Et certains commentateurs même disent que le fait d'honorer, ça a une connotation de sacrifice. Et c'est impossible d'honorer Dieu si on lui donne les restes, si on lui donne ce qui nous reste dans la poche, les quelques cents qui nous restent à la fin du mois. C'est impossible d'honorer Dieu si on ne lui donne rien. C'est impossible d'honorer Dieu si on garde tout pour nous. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est nous que nous honorons. C'est nous qui nous mettons à la première place de nos vies. Et la sagesse des proverbes nous appelle à changer notre façon de concevoir l'argent. La sagesse des proverbes nous appelle à changer notre conception de faire notre budget. Au lieu d'établir notre budget en fonction de ce que je veux faire, j'ai commencé à établir mon budget en fonction de ce que Dieu m'appelle à donner. Et la sagesse nous appelle à mettre Dieu en priorité dans notre gestion financière. Si tu veux commencer à goûter à cette paix dans tes finances, commence à mettre Dieu en premier. Et en fait, même le symbole de donner à Dieu en premier ce qu'on reçoit, ce symbole-là, ça démontre vraiment une dépendance, une confiance. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne sais pas comment le mois va se passer, mais j'ai confiance en toi. Avant de dépenser quoi que ce soit, avant de payer mes factures, mes taxes, avant de sortir au resto, avant d'acheter un beau cadeau pour ma femme, je pense à vous mesdames, je donne d'abord à Dieu. Je veux lui faire confiance. Et c'est normal que ce soit stressant. Peut-être qu'il y en a qui se disent « Ouf, ça... ça me fait un peu peur quand même, ce que tu es en train de dire, pasteur. » C'est littéralement un pas de foi en fait ici. Mais il y a littéralement une promesse qui est rattaché à ce pas de foi qu'on trouve au verset 10. Parce qu'il écrit « Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Autrement dit, Dieu nous dit là, si tu me fais confiance, si tu mets ta foi en moi, si tu m'honores par tes premiers fruits, alors tu vas goûter cette paix parce que je vais prendre soin de toi, au-delà de ce que tu peux imaginer. Ça va déborder, nous dit le verset 10. Et Raymond Auckland, c'est un pasteur et un théologien, a dit ceci à propos du verset 10. Il a dit que la capacité de Dieu à donner dépasse de loin notre capacité à recevoir. C'est ce que 2 Corinthiens nous dit au chapitre 9 et au verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Maintenant, attention. Attention. Ça ne veut pas dire que donnez de l'argent à Dieu et il vous rendra riche derrière. Notre objectif, ce n'est pas de devenir riche, mais de connaître Dieu. Et ici, ce que ça veut dire, c'est que si on expérimente cette joie de donner, de vouloir honorer Dieu, lui, en retour, s'engage à nous donner encore plus pour qu'on puisse investir en retour pour sa gloire. Plus tu vas donner à Dieu et plus il va te donner en retour pour que tu puisses encore plus lui donner. Et c'est Matthew Henry, un puritain du XVIIe siècle, qui a dit que ceux qui font le bien avec ce qu'ils ont en auront davantage pour faire encore plus de bien. Pour mettre fin à ton anxiété financière, donne à Dieu et il prendra soin de toi d'une façon où tu n'auras plus besoin de t'inquiéter pour tes finances. Commence à gérer tes finances avec la sagesse de Dieu. Mets-le en premier. Commence à retrouver ta générosité, commence à donner. Sois généreux envers Dieu et gère ce qui te reste ensuite à la fin avec de la sagesse. Parce qu'il faut faire encore attention à ces dépenses-là. Ce n'est pas parce qu'on donne à Dieu, on se dit « bon bah, je dépense comme je veux, je fais ce que je veux parce que Dieu a promis de me bénir, de me garder. Hein. » Ça ne veut pas dire ça. Parce que Proverbe 11, verset 15 nous dit que « celui qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal, mais celui qui veille à ne pas s'engager s'assure la tranquillité. » Et Proverbe 22, 7 nous dit « celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Autrement dit, fais attention comment tu gères le reste de ton budget. Fais attention comment tu gères ton argent. Ne sois pas l'esclave de quelqu'un d'autre parce que tu gères mal ton budget. Nous, dernièrement, avec Julie, on a un projet d'acheter une voiture. Bon, on n'est pas pressé parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais ça met quand même du temps là, pour avoir une voiture. Là. Donc, on recherche une voiture actuellement, mais on s'est mis un budget à ne pas dépasser. On s'est mis des mensualités à ne pas dépasser. On pourrait aller au-dessus, mais on sait très bien que si on va au-dessus, c'est notre générosité qui va en pâtir. On ne pourra pas être autant généreux qu'on va vouloir parce qu'on sera bloqué par cette dette-là. On essaie de gérer nos finances avec la sagesse que Dieu nous donne et on prie pour avoir la sagesse. Donc si tu veux connaître cette paix dans ton anxiété financière, commence à donner à Dieu et commence à gérer ton argent en mettant Dieu au centre de tes finances. Et en faisant ça, il va prendre soin de toi. Et en faisant ça, il s'engage à veiller sur toi. Et tes finances ne seront plus un problème ni une inquiétude parce que ça ne va plus dépendre de ton travail, de ce que tu reçois par mois, mais ça va dépendre de lui. Et lui est fidèle. Et il ne change pas. Amen. On continue notre lecture dans Proverbe 3 qui nous ouvre le chemin vers la paix. Je continue au verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite et sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Ici, Proverbe nous explique comment trouver la paix dans notre anxiété de performance. Aujourd'hui, on est dans une société où on désire toujours avoir plus de gloire, plus de richesse, plus d'honneur. On veut être le meilleur, on veut être le plus aimé. Et on est continuellement sollicité. Et on accepte cette sollicitation parce qu'on veut être au-dessus, on veut être les meilleurs, on veut être aimé et accepté. Et on est sollicité pas seulement au travail, mais même dans notre vie à tous les jours. T'as-tu vu le dernier film au cinéma? Est-ce que t'as regardé la dernière série à la mode en ce moment? Est-ce que t'as un nouveau smartphone à la mode? Est-ce que tu fais attention à ta forme physique aussi en ce moment? Est-ce que tu t'es mis des bons objectifs en 2022? Et on met encore aussi une pression, parfois qui est bonne, mais qui, si elle est trop intense, ça devient mauvais, d'un point de vue spirituel. Est-ce que tu pries assez? Est-ce que tu jeûnes assez? Est-ce que t'as demandé assez pardon à Dieu pour t'approcher de lui ce matin? On est continuellement sous une pression et on poursuit cette surperformance, d'être le meilleur, d'être au-dessus de tout, au détriment de la paix que Dieu veut nous donner. Et même au détriment de certaines bonnes choses, comme le sommeil. Moi, je vous confesse ce matin que des fois, j'accepte de couper mon sommeil un petit peu, juste pour essayer de rattraper mon retard sur une série que tout le monde parle autour de moi. Amen. Je dis je confesse, hein, donc je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose, mais bon. Mais ici, Proverbe 3 nous dit d'arrêter cette quête et de rechercher la sagesse si nous voulons connaître la paix, si nous voulons marcher sur ce chemin du shalom. Le problème, c'est qu'on n'en veut pas. On ne veut pas chercher. On ne veut pas connaître cette paix-là. Non, mais moi, pas besoin de la sagesse. Quand j'aurai fini ma série, je serai enfin en paix. Quand j'aurai enfin ce travail que je rêve d'avoir, je serai enfin en paix. Pas besoin de sagesse, là. C'est pas la paix qui va me donner la... Enfin, pas la sagesse qui va me donner la paix. Quand j'aurai ma nouvelle maison, je serai enfin en paix. Et en fait, cette quête-là, dans cette quête-là, notre anxiété de performance vient d'un principe simple. On craint le regard des autres. On veut exister au regard des autres. On craint l'avis des autres, on craint le jugement des autres. C'est pour ça qu'on cherche toujours à être ultra performant, à être le meilleur, à être le dernier à la mode. La crainte des hommes fait de nous des otages. Proverbe 29, verset 25 dit « La crainte des hommes tend un piège. » On est vraiment des otages, on tombe dans un piège du « qu'est-ce qui va se passer si ?» Qu'est-ce qui va se passer si les gens découvrent que mon enfant a coulé tous ses cours à l'université ? Qu'est-ce qui va se passer si les gens découvrent que mon mariage ne fonctionne pas très bien ? Qu'est-ce qui va se passer si les gens me trouvent old school parce que, encore une fois, je n'ai pas vu la dernière série à la mode ? Ou que parce que je ne remplis pas toutes les cases de mon emploi ? Qu'est-ce qui va se passer si les gens découvrent que je suis un imposteur dans le travail que je fais ? Qu'est-ce qui va se passer si les gens voient que je ne suis pas une mère ou un père parfait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et cette angoisse-là d'être toujours parfait, cette angoisse-là d'être toujours le meilleur, de montrer la meilleure image de soi, ça nous coupe du shalom. Ça nous coupe de la paix, parce qu'on est toujours anxieux du regard des autres. Mais le problème, c'est que si ça nous coupe de la relation avec les autres. On n'est plus sincère avec personne aujourd'hui. Parce que les gens ne peuvent pas savoir à quel point je suis magané à l'intérieur. Leur regard va changer sinon. Les gens ne peuvent pas savoir à quel point je souffre, à quel point je lutte dans ma vie, parce que sinon ils vont se dire « mais quel mauvais chrétien, quel manque de foi ». Et on est vraiment dans cette anxiété-là. Mais Proverbe 3, verset 7 nous dit « ne te prends pas pour un sage, arrête de croire que tu es le meilleur ». Arrête de croire que tu peux y arriver par toi-même. Arrête de croire que ces objectifs que tu as dans ta vie, ce sont les meilleurs pour toi, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. La guérison peut seulement s'obtenir si tu commences à craindre Dieu. Et je ne vais pas refaire mon message sur la crainte de Dieu, hein, s'il y en a qui ont peur de ça et que ce message dure doublement de temps, là. On peut voir une petite suite ici. Mais si je crains Dieu, et si je ne crains plus les hommes, je vais pouvoir vivre dans la vérité. Parce que Dieu sait qui je suis. Je n'ai pas besoin d'essayer d'être une autre personne devant Dieu, je peux être moi-même. Je n'ai pas besoin de faire des choses pour être approuvé par Dieu, parce que je suis approuvé en Jésus. Et mon regard n'est plus sur les hommes, mais sur Dieu. Et cette crainte de Dieu-là nous amène à ne plus craindre le regard des hommes, et ça va nous donner un rafraîchissement. Proverbe nous dit, ça apporte un rafraîchissement à tes os, à ton cœur. Ça te donne une guérison, une bouffée d'oxygène alors que t'étouffes dans ton anxiété. Le fait de ne plus craindre les hommes, ça va aussi t'amener à demander de l'aide, à parler de tes problèmes. Certains spécialistes disent que si les gens n'arrivent pas à passer au-dessus de leur anxiété, c'est parce qu'ils gardent tout à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'osent pas en parler, ils ne s'ouvrent pas. Ce matin, ne reste pas isolé dans ton anxiété. Confie-toi en Dieu, mais aussi à ceux qui sont autour de toi. Je suis sûr que ce matin, si je demandais levez pas la main, là, mais si je demandais à des gens qui a vécu l'anxiété durant juste ces deux dernières semaines, il y en a plein qui lèveraient la main. Si tu oses ce matin confesser que tu vis de l'anxiété, je suis sûr que ça va encourager aussi d'autres personnes à trouver le courage de le confesser aussi et de trouver une certaine guérison. J'ai lu un témoignage d'un pasteur qui a fait une énorme crise d'anxiété il y a plusieurs années. Et son conseil, c'était celui-ci. Cacher l'anxiété est la pire chose à faire. Et selon lui, s'il a réussi à guérir, à passer au-dessus de son anxiété, c'est parce qu'il ne s'est pas isolé de ceux qui étaient autour de lui. Et j'ai conscience que la santé mentale, c'est un domaine qui est compliqué. Il y a plein de spécificités avec tout ça. Ce n'est pas toujours simple. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas t'en sortir seul. Dans tous les cas, tu vas avoir besoin de faire tomber le masque, d'être vrai, avec tes sentiments, avec toi-même, et d'en parler à Dieu, d'en parler autour de toi. Tu dois apprendre à être vrai et à nommer les choses pour ce qu'elles sont, si tu veux goûter à la guérison. Tu n'es pas seul à vivre l'anxiété. Tu n'es pas seul à vivre l'anxiété, tu n'es pas seul non plus quand l'ouragan de la peur vient te saisir la nuit. Quand l'angoisse vient te saisir les tripes, tu n'es pas seul. Et ce n'est pas parce que tu te sens oppressé, éprouvé en ce moment, que tu ne peux pas connaître le shalom, que tu ne peux pas connaître la paix. Ce n'est pas parce qu'il y a des situations qui sont autour de toi qui te semblent juste, qui ne vont jamais changer, tu dis ça ne changera jamais, ça restera comme ça. Ce n'est pas parce que tu vis des situations comme ça que tu ne connaîtras jamais la paix. C'est pasteur Craig Groeschel qui a dit un jour que la paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes. Mais la paix, le shalom, se trouve en Dieu. Le shalom se trouve en Jésus. Pas dans la paix dans tes circonstances, mais juste en Jésus. Parce que Jésus est la source de la paix. Si la paix te semble impossible, tu peux la trouver en Jésus. Parce qu'il a dit en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Pas comme le monde donne, mais de façon parfaite. Sans rien en échange, juste par amour, juste par grâce, je vous donne ma paix, mon shalom. C'est accessible. Alors que ça tombe être impossible, la paix est accessible pour toi aujourd'hui. Et cette paix qui peut calmer toutes les tempêtes, toutes tes craintes, toutes tes anxiétés, tous tes moments sombres dans ta vie, elle se trouve qu'en Jésus. Et elle est gratuite. Il n'y a rien à payer pour l'avoir, il y a juste à lui demander. Et dès que tu sens l'anxiété monter en toi, cours vers lui. J'ai entendu un jour une illustration qui m'a vraiment fait rire et puis en même temps qui m'a vraiment permis de réaliser à quel point c'était précieux de le faire. Mais dès qu'on vit l'anxiété, il faut courir vers Jésus parce qu'un pasteur a pris cette image-là. C'est comme quand un voyant s'allume dans ton auto. On ne sait jamais ce que ça veut dire, ce voyant-là. Voyant orange, là, il y a juste un point d'exclamation. OK, qu'est-ce que c'est? Et là, dans ces situations-là, on a deux choix. Soit on va au garage, soit on continue. On ferme les yeux, on fait l'autruche. Et la voiture, finalement, elle vient à exploser. Oui, exploser, carrément. Je vais jusque-là. Dès que l'anxiété commence à apparaître, cours vers Jésus. Ne te dis pas, moi, c'est rien, ça passera. Si l'anxiété s'éveille en toi, c'est que c'est déjà assez grave pour l'amener devant Jésus. Et j'aime ce que Philippiens 4, verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, dans le deuil, comme dans la joie, dans l'abondance, comme dans la pauvreté, dans la santé ou même quand le médecin vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, quand ton couple va bien ou quand ton couple est au bord du divorce, quand tu viens à l'église avec tes enfants ou quand tu pleures à l'église pour tes enfants, quand tu es en paix ou quand tu es anxieux, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le shalom et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Personne ne pourra t'arracher cette paix-là. Il y a quelques semaines de ça, certains sont au courant, j'ai dû rentrer en France parce que il y a eu l'enterrement de mon grand-père, que j'ai perdu fin avril. Et c'était tough, émotionnellement. C'est dur. Et durant la cérémonie, on était tous sur le stage, à un moment donné, tous les enfants, les petits-enfants, les cousins. Et on était tous là, on avait tous les larmes aux yeux. Mais tous ceux qui étaient dans la salle, qui voyaient ça de loin, nous ont dit après, on voyait votre tristesse là. Votre tristesse, elle était visible. Mais vous dégagiez une paix. On ne sait pas d'où ça vient. Et le soir, alors qu'on était chez ma tati, en train de... Après cette lourde journée-là, on était tous ensemble dans son salon. Et ma grand-mère s'est juste allongée dans le salon, sur le canapé. Elle était juste éprouvée là, par tout ça. Et on voyait son regard vraiment tiré un petit peu. Vous savez, un peu... Elle était tirée. Elle était pas heureuse, elle était pas épanouie. On sentait qu'elle était vraiment préoccupée. Et on s'est tous rassemblés autour d'elle. Les cousins et tonton, tati, mes parents, ma sœur. Et mon cousin a pris une guitare. Et on a commencé à louer. On a commencé juste à adorer, simplement. C'était pas des « Où t'es le Dieu ?» C'est comme « Non, t'es là. Tu es fidèle. Notre secours est en toi. » Et ça a duré 20, 30, 35 minutes. Et c'était pas un ouragan qui est venu. C'était une paix. Une paix douce, calme, qui est venue reposer sur chacun d'entre nous. Et on a même vu le visage de ma grand-mère se détendre. On voit, j'ai gardé des vidéos pour moi là, mais on voyait même son sourire sur son visage à ce moment-là. Une paix que personne ne peut t'enlever. Et elle est accessible pour toi. Elle est accessible pour toi ce matin. Est-ce que ça veut dire que notre tristesse t'est évanouie? Est-ce que ça veut dire que tout allait bien? Est-ce que ça veut dire que tout était au mieux possible? Tous nos problèmes étaient résolus? Non. Mais le shalom ne se trouve pas dans l'absence de problèmes. Le shalom se trouve dans la présence de Jésus. Je vous invite à vous lever ce matin. Mon dernier texte, il se trouve encore dans le Proverbe 3. Il est écrit « Mon enfant, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Tout ce qu'on a apporté ce matin, il y en a plus encore, mais que ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde le discernement. Garde le discernement sur tes émotions, sur ton anxiété, quand elle se présente à toi. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tu seras en paix. Tu seras paisible. N'aie pas peur. Ne sois pas anxieux à cause d'une terreur soudaine ni d'une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Je vous invite à incliner vos têtes, on va rentrer dans un temps de prière. On est tous, chacun, devant Dieu. Si quelqu'un est en train de se dire, moi c'est ça que je veux. Moi c'est ça que je veux. Je vais être enfin en paix. Je vais enfin connaître cette paix. Si t'es fatigué parce qu'en ce moment tu dors mal, parce que t'es anxieux tous les soirs, toutes les nuits à cause de tes craintes, de tes angoisses, viens à Jésus. Viens à Jésus. Peu importe tes angoisses, peu importe tes anxiétés, pour tes enfants, que ce soit pour ton travail, que ce soit toujours à essayer de donner le meilleur de toi-même, même pour ton mariage, pour ton couple, si tu te dis « Mon âme soupire après ta paix, Jésus. J'ai besoin de ta paix. J'en ai marre d'avoir cette boule au ventre quand je me lève le matin. Si tu soupires après ce shalom, je veux te donner l'occasion de tendre ta main vers Dieu et de dire « C'est moi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de ta paix. » j'ai besoin de ta paix. Et si c'est ton cas, j'invite juste à lever la main pour que je puisse prier pour toi. Merci pour les mains qui se lèvent. Seigneur Jésus, tu connais les cœurs mieux que moi. Tu sais vraiment à quel point ces gens ont besoin de ta paix, de ton shalom. Déverse-toi sur eux. Tu as dit, je vous donne ma paix. Je te prie que ce shalom puisse s'établir dans chacune de ces vies. Dans chaque personne qui a levé la main et les personnes même qui n'ont pas osé lever la main, je te demande, Seigneur Jésus, déverse ta paix. Une paix inébranlable. Une paix qui va venir bouleverser le quotidien. Une paix qui ne pourra jamais être arrachée par quoi que ce soit d'autre. Je te prie, Jésus, vraiment, déverse-toi dans ces vies. Déverse-toi dans ces cœurs. Fais un miracle que seul toi peux faire, s'il te plaît, Jésus. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir et notre espoir se trouve pas dans quelque chose qui est matériel. Notre espoir se trouve en la personne de Jésus. Alors, s'il te plaît, Père, donne une paix nouvelle, un réconfort nouveau, comme une encre pour nos âmes. Donne ce shalom-là. Transforme les situations pour ta gloire. Ton nom. Donne la paix, Jésus.